France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Au téléphone sonne ce soir, souvenir, souvenir. Il y a 40 ans était inaugurée la première ligne TGV entre Paris et Lyon. Depuis, le réseau à grande vitesse s'est étendu vers l'ouest, le nord, le sud et l'est. Il fait désormais 2700 km de long. Il devrait encore progresser puisqu'au printemps dernier, Jean Castex a annoncé un peu à la surprise générale le prolongement de la ligne à grande vitesse jusqu'à Toulouse. Et puis à la mi-journée, Emmanuel Macron, qui était à la gare de Lyon à Paris pour l'anniversaire du TGV, a dit que la décennie 2020 serait celle du TGV. On va voir ce qu'il faut en penser, surtout à l'heure où il est également question d'un rééquilibrage au profit des trains du quotidien. Alors ce soir, on s'interrogera sur ce que le TGV a changé en 40 ans pour ceux qui l'empruntent, pour les régions et les villes concernées. Ensuite, ce sera également l'occasion d'entendre vos souvenirs, vos remarques. Avec nous ce soir, pour nous rafraîchir la mémoire et répondre à toutes vos questions, trois invités que je vous présente. Ici à mes côtés en studio, Michel Leboeuf. Bonsoir.
Bonsoir.
Président honoraire du groupe Grande Vitesse de l'UIC, l'Union Internationale des Chemins de Fer, c'est bien ça ?
Président honoraire du groupe Grande Vitesse.
Du groupe Grande Vitesse. Vous avez fait toute votre carrière à la SNCF, hein, où vous étiez directeur des grands projets. Je crois que vous avez passé une partie de la journée à la gare de Lyon, vous allez nous raconter. Dans les locaux de Radio France à Lyon, Yves Crozet, qui est économiste des transports. Bonsoir Monsieur Crozet.
Bonsoir.
Professeur émérite à Sciences Po Lyon. À distance également, Marie Delaplace. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'aménagement en économie territoriale à l'école d'urbanisme de Paris, chercheuse à l'université Gustave Eiffel. Et puis, à nos côtés également, Maxime Deps, notre monsieur SNCF, ici à la rédaction de France Inter. Rebonsoir, Maxime.
Rebonsoir.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, un premier appel de Paris. C'est Caroline qui est en ligne. Bonsoir Caroline, on vous accueille.
Oui, bonjour, bonsoir. Moi, il faut vous dire d'abord que j'adore les trains. Mon père était cheminot. Mais je vais vous dire que le TGV a joué un rôle immense dans ma vie sentimentale. J'ai rencontré un garçon à Marseille et qui travaillait à Marseille. Moi, je travaillais à Paris. Alors, que faire? Et juste à ce moment-là, le TGV a été mis en service. Donc, on le prenait chacun son tour, quelquefois toutes les semaines, quelquefois tous les 15 jours, suivant ce qu'il fallait faire, le boulot, quoi. Alors, je peux vous dire qu'on a laissé une fortune à la SNCF, parce que on a fait ça pendant 15 ans, au moins 15 ans, je me rappelle plus trop, hein.
Mais enfin, ça a apporté ses fruits, quoi.
Ça apportait ses fruits, et voilà, c'était merveilleux. On prenait des couchettes, donc le matin, on allait au travail en sortant de la gare, et puis voilà. Et après, nous nous sommes mariés, et merci au TGV, qui a sûrement changé ma vie. Voilà.
Merci Caroline pour cette superbe entrée en matière. Michel Leboeuf, c'est ça aussi le train, hein ? Ce sont des grands projets, ça aussi.
Bah, si la SNCF change la vie des gens, on peut dire qu'il a bien réussi.
Ça fait partie de. Ça
non,
fait partie
je, du... je veux dire simplement, si vous voulez, que cette dame, si elle habite Marseille, à une certaine époque, faire Paris-Marseille, c'était au moins 7 heures de train. Aujourd'hui, c'est 3 heures. Et donc, si les mêmes circonstances se reproduisaient aujourd'hui, elle retrouverait son conjoint beaucoup plus facilement qu'elle ne le trouvait dans le passé.
Je ne sais pas si ça relève de l'économie des transports, Yves Crozet, mais une petite réaction, vous qui êtes à Lyon?
Oui, ce qui est surprenant, c'est que cette dame parle des trains couchettes qui ont disparu justement à cause du TGV et qu'on essaye de relancer aujourd'hui. Donc,
c'était peut-être avant, juste avant, voilà.
Voilà, il faudrait savoir si les trains couchettes ont vraiment du sens quand on a des TGV.
En tout cas, les transports, ça change la vie, c'est une certitude. Marie Delaplace, vous vous occupez d'aménagement du territoire, mais la vraie vie, ça fait partie de l'aménagement du territoire.
Mais bien sûr, donc le TGV permet effectivement de rapprocher les villes, et on voit bien d'ailleurs quand on regarde les cartes, les anamorphoses qui sont faites, hein, ces cartes complètement déformées avec les temps de trajet entre les villes, on voit bien qu'on a une déformation, et donc ça rapproche les villes et par conséquent ça rapproche les gens.
Julien est dans le Jura, il est au bout du fil. Bonsoir Julien.
Oui, bonsoir.
Vous souhaitiez nous parler de votre expérience TGV, vous aussi ?
Principalement de ce que représente le TGV pour moi. Pour moi, en fait, c'est le fossoyeur des petites lignes. C'est-à-dire qu'on investit des milliards et des sommes pas possibles pour gagner des fois très peu de temps, et ça s'est fait au détriment de toutes les petites lignes. Notamment avec la mise en place de billets qui enfin, le choix des billets qui favorise le TGV. Donc quand vous payez un billet, on vous force à prendre le TGV. Et que deuxièmement, les TER, les horaires sont adaptés pour s'adapter aux horaires du TGV. Et on n'a plus d'horaires qui correspondent à des horaires de travail. Ou alors vous arrivez une heure avant ou une heure trop tôt. C'est une catastrophe. Voilà. Donc pour moi, c'est le fossoyeur de toutes les petites lignes, de tout le fonctionnement qui fonctionnait.
Merci Julien pour ce commentaire bien différent de celui de Caroline. On l'entend Yves Creuset. J'ai envie de dire que Julien n'est pas tout seul ce soir à dire ça au Standard de France Inter, notamment par mail. On a reçu énormément de messages en ce sens, de gens qui nous disent tout le système a été pensé pour le TGV, ça s'est fait au détriment des autres lignes. Est-ce que c'est vrai ?
Oui, oui, d'une certaine façon, puisque quand le président de la République en 2017 a annoncé qu'il allait mettre le ralentissement sur les TGV en disant il faut privilégier les trains du quotidien, c'est parce qu'il faisait le même constat que votre interlocuteur en disant est-ce qu'on n'a pas été trop loin dans le TGV ? Et depuis cette date, on le sait, beaucoup de projets qui avaient été votés en 2009 ont été abandonnés, d'aller vers Clermont ou vers Amiens par le nord, etc. Donc clairement, le TGV attirait beaucoup de passagers. Le trafic de passagers qui baissait régulièrement avant 81 s'est mis à repartir à la hausse et très fortement grâce au TGV. Donc bien sûr, comme n'importe quelle entreprise, la SNCF s'est occupée du secteur qui marchait le mieux.
On peut dire que ça a été vraiment on a privilégié le tout TGV. C'est vrai quand on dit ça ?
Oui, c'est vrai, particulièrement du point de vue des élus qui, au départ, étaient très réticents à l'égard du TGV. Moi, qui suis lyonnais, je peux vous dire que quand le TGV est arrivé en 81, la Chambre de commerce venait de lancer l'aéroport de Saint-Exupéry et ils avaient très très peur que le train concurrence l'avion. Mais très vite, les élus locaux se sont rendus compte que le TGV, ça pouvait être quelque chose qui était un symbole important. Et maintenant, tous les élus veulent avoir leur TGV. Et c'est bien pour cela qu'encore une fois, au milieu des années 2010, avec le rapport Duron, avec ce qu'a dit le président Macron, on a dit il faut arrêter le tout TGV, même si maintenant, bien sûr, avant les élections, c'est commode de dire qu'on va relancer certaines lignes.
Alors on va revenir sur ce qu'a annoncé aujourd'hui Emmanuel Macron et sur la suite des événements, mais sur cette critique de nos auditeurs, Michel Leboeuf, vous qui étiez à la SNCF, vous confirmez que c'était la priorité, le TGV, ces 40 dernières années ?
Je trouve que c'est un peu simpliste d'opposer le TGV avec les transports quotidiens, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sont les mêmes qui financent les deux. Je veux prendre le cas, par exemple, de la ligne Bretagne-Pays de la Loire, celui de la LGV Est ou celui de la LGV Rhin-Rhône. Ce sont les élus qui ont collecté des fonds, la Bretagne et le Pays de la Loire, 900 millions, qui sont venus voir l'État et qui ont dit « Nous mettons 900 millions sur la table, que faites-vous avec nous pour faire une ligne TGV ?» Donc ce sont les mêmes qui ont décidé des investissements TGV qui sont aussi responsables de l'évolution des petites lignes. Ça, c'est pour le financement. Et maintenant, pour ce qui concerne le réseau lui-même, je voudrais signaler qu'on a 2700 km de lignes nouvelles, mais que le TGV roule aussi beaucoup sur le réseau existant. Et si je prends par exemple le cas de la ligne entre Marseille et Nice, eh bien je peux vous dire qu'aujourd'hui, les sillons qui sont affectés au TGV sont devenus très peu nombreux parce que la place a été donnée au TER. Je ne dis pas que ce soit bien, je ne dis pas que ce soit mal, je dis c'est un constat. C'est-à-dire que on n'est pas dans une politique du tout TGV, puisque notamment le partage de l'infrastructure, dans ce cas-là, s'est fait en la faveur des TER, donc du transport quotidien.
On reviendra justement sur le cas de cette ligne Marseille-Nice au cours de cette émission, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Marie Delaplace, pour cette question du tout TGV, du fait d'avoir privilégié la grande vitesse par rapport au reste, qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que spécialiste d'aménagement du territoire ?
Bah, effectivement, je crois que il y a eu vraiment un plus accordé au TGV en termes de financement et au détriment des lignes classiques, avec la suppression des trains de nuit, par exemple, qu'évoquait Yves Creuset, la suppression des trains de nuit auxquels on revient aujourd'hui parce que finalement c'est une solution tout à fait intéressante pour certaines personnes qui souhaitent faire des grandes distances. Et les plus petites villes et les dessertes des plus petites villes se sont dégradées parce que le TGV, il faut bien le reconnaître, il dessert en premier lieu les métropoles. Il faut s'intéresser non pas simplement à le fait qu'il y ait un TGV et qu'il y ait d'ailleurs une ligne à grande vitesse, hein, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais il faut aussi s'intéresser au service, c'est-à-dire à la fréquence. Or, la fréquence est beaucoup plus importante sur entre les plus grandes villes, entre Paris et Nantes, même si Nantes est sur ligne classique, entre Paris et Marseille, entre Paris et Lyon, et elle est beaucoup moins importante, la fréquence TGV, sur les villes moyennes et sur les plus petites villes. Et les élus, et là je suis d'accord avec Michel Leboeuf, les élus sont responsables parce qu'un certain nombre d'entre eux ont souhaité avoir ces lignes, ces dessertes TGV. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a un effet d'image. On est sur la carte des dessertes TGV. Mais force est de constater que au bout d'un certain temps, dans un certain nombre de cas, on voit les dessertes diminuer et puis le service est donc beaucoup moins important pour ces villes moyennes. Donc les élus ont une responsabilité au sens où ils ont demandé à ce que les TGV s'arrêtent dans des villes, mais le TGV, il n'est pas fait pour ça au départ. Il est fait pour desservir les plus grandes métropoles. Et donc, on essaye de lui faire faire un certain nombre de choses, en termes d'attractivité par exemple, pour des villes moyennes, mais il n'est pas fait pour ça.
Frédéric est au bout du fil. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir Fabienne Saint-Ève, bonsoir à vos invités. Alors, merci pour la qualité.
C'est clair le vendredi, émissions. Mais je vous en veux pas, Frédéric. Allez, on est entre nous. Il n'y a pas de souci.
Pardon.
Frédéric, vous prenez à la fois le TGV et les autres trains, c'est ça?
Tout à fait. Je suis amené à prendre le train pour mon travail assez régulièrement. Je prends le TGV sur les lignes où il existe, mais comme je ne vais pas que sur des grandes métropoles françaises, je suis amené à devoir prendre d'autres lignes. D'une part, je trouve que nous avons un réseau, même s'il a beaucoup diminué, que des lignes ont été oubliées, abandonnées. Nous avons une infrastructure qui mériterait d'être soutenue et développée. Ma remarque était justement sur ces grandes villes, parce que il y a un déséquilibre où il y a une conséquence à tout ça. L'exemple, par exemple, avec Bordeaux, qui est à 2 heures maintenant de Paris, et on a l'impression que ça devient une banlieue de Paris, c'est-à-dire que les grandes métropoles deviennent des banlieues d'elles-mêmes, avec d'autres grandes métropoles. Mais où est la France avec tout ça? Moi, je vais jusqu'à Pau avec le train. Donc le TGV, la rame, elle m'amène jusqu'à Pau. Je n'ai pas besoin de changer de rame si je prends la bonne au départ de Paris. Mais après Bordeaux, on va rouler comme un intercité, comme un corail, comme on disait avant. Et du coup, ça interroge sur le développement ou les effets d'annonce du développement du TGV. Qu'est-ce qu'on veut dire? On veut parler que des grandes villes? Juste un dernier exemple, si vous partez de Pau pour aller à Marseille en train, eh bien, vous êtes obligé d'avoir des changements.
Oui, là, vous n'êtes pas rendu, hein, c'est vrai.
Ah ben non, on va plus vite en voiture.
Vous n'êtes pas rendu.
Alors l'impact carbone n'est pas le même, mais on va plus vite en voiture parce que les autoroutes, elles font d'un seul trait Bayonne, Biarritz, Pau et Marseille.
Merci voilà. Frédéric pour toutes.
Avec grand plaisir.
Pour toutes ces remarques, il y a plein de choses dans ce que vous venez de nous dire sur le fait. Yves Crozet, vous qui êtes dans la grande banlieue de Paris, puisque vous êtes à Lyon. D'après ce que nous dit Frédéric, qui nous dit que Bordeaux aussi c'est la banlieue. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce raccourcissement des distances?
Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement les réseaux TGV copient d'ailleurs les réseaux ferroviaires du 19e siècle, qu'on appelle l'étoile de Legrand, c'est-à-dire que les réseaux sont en étoile depuis Paris vers les grandes villes. Si vous regardez une carte de France, vous vous apercevez qu'autour de Paris, dans les 300 kilomètres, il y a eu comme un aspirateur qui fait que vous n'avez pas de grandes villes relativement proches de Paris. Et les grandes villes, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Bordeaux, c'est beaucoup plus loin, et elles ont pu en quelque sorte se développer parce qu'elles étaient loin de Paris. Et donc, mécaniquement, comme les trafics sont d'autant plus importants que les pôles sont importants, ben on fait une ligne entre Lyon et Paris. On commence pas par faire une ligne entre Alès et Bordeaux, par exemple, parce que là, le trafic potentiel est extrêmement faible. Donc, il faut bien comprendre qu'on est sur une logique économique. De même qu'on a construit les autoroutes en commençant par Lyon-Paris, on a commencé les LGV en commençant par les lignes où il y avait le plus de fréquences.
Michel Leboeuf, c'était une évidence, ça s'est imposé, cette construction en étoile des lignes de TGV?
Oui, en partie. En partie, mais il faut bien reconnaître que l'Île-de-France est 12 millions d'habitants. Le marché, il est quand même majoritairement, je dirais, issu de l'agglomération Île-de-France. On ne peut pas faire du TGV. Le TGV est un transport de masse. Sans la masse, il n'a pas de sens. Il faut bien garder ça à l'esprit. Je voudrais néanmoins faire la remarque suivante, c'est que aujourd'hui, le TGV dessert quotidiennement 250 villes en France. C'est pas 4 ou 5 grosses agglomérations. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le TGV, je l'ai dit tout à l'heure, roule sur d'autres lignes avec le TER ou avec le fret. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le TGV contribue à l'équilibre financier du système ferroviaire, notamment parce que les TGV payent 41% de leurs recettes pour le réseau. Alors que si vous prenez les TER, ils ne payent que 24% de leurs recettes. Donc, quand on veut essayer d'opposer le transport du quotidien et TGV, je dis, faisons attention, parce que les uns et les autres cèdent mutuellement et participent, je dirais, à la même production, finalement, la production d'infrastructures.
D'ailleurs, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a dit, certes, que ce sera la décennie 2020 sera celle du TGV, mais il a dit en même temps qu'il fallait relancer toute la filière ferroviaire, et notamment le fret. Ça veut dire quoi, Maxime Debs, c'est en même temps, on fait tout, c'est ça?
Ben, ce qui est sûr, c'est que là aujourd'hui, on a un mouvement, de balancier. Enfin, ce que disent généralement les personnes en interne, les syndicats notamment que j'ai pu croiser ce matin, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment un mouvement de balancier. On ne sait plus trop exactement. Le gouvernement était pour les petites lignes.
En 2017, on disait train du quotidien.
Il l'est toujours. Officiellement, il l'est toujours. Voilà, mais on a un changement de paradigme actuellement. Là, Emmanuel Macron aujourd'hui annonce 6,5 milliards d'investissements. Enfin, c'était déjà annoncé par Jean Castex, mais voilà, c'est confirmé pour mener des projets d'ampleur. Hein. On va parler de Perpignan, Montpellier, de Bordeaux, Toulouse, de Nice, Marseille. On a l'impression d'être lancé là aujourd'hui en quelque sorte, enfin je sais pas, hein, c'est peut-être un peu galvaudé, mais dans un quoi qu'il en coûte ferroviaire, même si ces grands projets n'ont pas attendu l'épidémie, la Covid, pour être poussés par les politiques qui en font, voilà.
Guillermo est à Grenoble et il est en ligne, il a appelé le Standard de France Inter, on l'en remercie. Bonsoir Guillermo.
Oui, bonsoir à vous.
Vous souhaitiez nous poser une question?
Oui, bah déjà un témoignage, c'est que enfin moi je suis née dans les années où le TGV sortit, c'est-à-dire dans les années 80, et c'est vrai qu'à l'époque où c'est sorti, c'était une formidable révolution. Enfin moi personnellement, et je pense que pour beaucoup de monde, on s'est mis à prendre le TGV, ce qui a considérablement aussi changé le paysage pour se déplacer. Et c'était d'autant plus un formidable projet qu'en fait le projet politique, il était aussi de rendre accessible le train, ce train rapide, pour se rendre dans de nombreuses villes à des prix qui étaient accessibles. Et alors ce qui est un peu paradoxal aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup plus de lignes TGV et paradoxalement le prix de base a énormément augmenté. Il y a des lignes de nuit dont on a parlé tout à l'heure qui ont été supprimées. Et du coup, c'est vrai que l'accès du TGV aujourd'hui pose question, notamment par rapport à des billets d'avion qui sont moins chers que des billets de train, pareil pour le bus. Et voilà, et ça pose vraiment question parce que pour moi, c'est vraiment un des transports qu'on devrait aussi privilégier, mais à un prix abordable.
Bien sûr, merci Guillermo pour cette question. Michel Leboeuf, vous souhaitiez réagir?
Oui, plusieurs choses. La première, c'est vrai que le TGV a été une révolution, mais je crois qu'il faut bien comprendre ce qu'a été cette révolution. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le TGV, le train serait mort.
On aurait privilégié l'avion.
En 1980, la dernière année avant TGV, il y avait plus de monde sur Air Inter entre Paris et Lyon qu'il n'y en avait dans le train. Je parle pas de Marseille, c'est encore pire.
Évidemment, ça a tout changé, le TGV.
Et donc, s'il n'y avait pas eu le TGV aurait eu le même sort que les trains de nuit. Les trains auraient disparu. Donc c'est ça la révolution du TGV. Bon, c'est la survie du train.
Maintenant la démocratisation.
Démocratisation. Lorsque la SNCF a été autorisée à faire la ligne Paris-Lyon, une des conditions de l'autorisation était que le prix du billet de Paris à Lyon soit le même que les trains classiques qui précédaient. Et effectivement, cette politique-là a été appliquée pendant très longtemps, c'est-à-dire que le produit moyen aux voyageurs kilomètres a été maintenu par l'État à peu près au niveau qu'il était pour les trains classiques. Alors après, il y a eu l'utilisation de ce que l'on appelait le yield management, c'est-à-dire qu'on fait varier les prix en fonction de la demande.
Et là, ça a tout changé.
Ça a tout changé, mais en même temps, si vous voulez, j'entends des choses qui sont fausses. On me dit que l'avion est moins cher. Oui, vous pouvez trouver ponctuellement un billet d'avion qui est moins cher qu'un billet de train. Mais nous, nous avons fait des études sur des échantillons très importants, sur différents types de voyages, différents motifs de voyage, groupes qui voyagent. Et globalement, le train est donc 80 ou 90% des cas moins cher que l'avion.
On va poser la question à Yves Crozet, qui est économiste des transports. Vous partagez le point de vue de Michel Leboeuf ?
Oui, le train, il faut comparer, aller prendre un billet de train sur 500 ou 600 kilomètres en Allemagne ou même en Espagne, et vous verrez que les prix français ne sont pas ridicules. Et n'oublions pas qu'on a maintenant une grosse partie du trafic TGV qui fait du Ouigo, et si j'en crois l'autorité de régulation des transports et son rapport annuel, sur un Ouigo, les passagers payent en moyenne 5 centimes du kilomètre, à peu près le prix d'une compagnie low cost. Sur un TGV Inouï, le coût est à peu près 9 à 10 centimes d'euros du kilomètre. Donc,
mais si je peux me permettre, Yves Crozet, il y a aussi des gens qui ne peuvent pas se payer le train et qui préfèrent aller prendre le car, du coup, ou faire blabla car. Hein. C'est une réalité.
C'est pour cela que Ouigo a été mis en place, parce qu'effectivement, sur les autocars, on peut être parfois à 3, enfin officiellement, on est à un peu plus de 4 centimes d'euros du kilomètre et par passager. Mais bien sûr, si vous avez une famille avec 3 enfants et vous avez déjà une voiture, ça sera toujours moins cher de prendre votre voiture pour 5 personnes que de prendre 5 billets de train. Donc le train, il a une zone de pertinence pour certains types d'usages, pour certains types de clientèle. Et objectivement, le train ne peut pas être gratuit. Donc regardons bien ce qui se passe. Quand vous faites 450 km entre Lyon et Paris et que vous pouvez avoir un billet à 40 ou 50 euros, c'est pas si cher que ça. Il faut voir quel est le service qui est derrière.
Je voudrais qu'on s'arrête un instant avant de reprendre un nouvel appel sur ce qu'a annoncé Jean Castex au printemps dernier et puis sur les annonces d'Emmanuel Macron aujourd'hui laissant entendre qu'il va y avoir de nouvelles lignes TGV. Michel Leboeuf, d'abord sur ce qu'avait annoncé Jean Castex au printemps. A priori, cette fois-ci, on part sur un prolongement de la ligne entre Bordeaux et Toulouse. Ça paraît acté ou pas, ou je vais trop vite en besogne là?
Oui, non, c'est pas acté définitivement. De toute façon, tant que le financement n'est pas sur la table, il faut attendre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce projet est arrivé au niveau de la déclaration d'utilité publique, ce qui est donc comme un stade très avancé avant la construction, hein, d'une part, et d'autre part, c'est un projet qui est quand même relativement ancien, qui est bien étudié et connu depuis assez longtemps, quoi. Et il est très important parce que quelqu'un qui va à Toulouse, il fait deux Paris-Bordeaux 2 heures. Une fois qu'on est à Bordeaux, encore 2 heures pour Toulouse. Ça paraît excessif. Et par ailleurs, il faut aussi savoir que une des lignes aériennes les plus importantes en France, c'est Paris-Toulouse.
Et forcément, il y aura des conséquences.
Eh bien sûr, parce que lorsque on aura fait la ligne Bordeaux-Toulouse, on va avoir un report massif de l'avion vers le TGV.
Est-ce qu'on peut considérer que Montpellier-Perpignan, c'est dans les tuyaux également ou pas ?
Montpellier-Perpignan est un projet qui est un peu différent. D'abord parce qu'il n'est pas sûr que ce soit en totalité une LGV. Ça peut être d'une part une prolongation du contournement Nîmes-Montpellier sous la forme d'une ligne classique. D'ailleurs, le contournement de Nîmes-Montpellier n'est pas une ligne LGV, sur laquelle les trains à grande vitesse roulent à 220 km/h. C'est seulement peut-être dans la partie, je dirais, qui est plus près de l'Espagne, où le relief est difficile, que là, effectivement, on aura peut-être une LGV. Mais toujours est-il que c'est un projet qui, à la fois, va servir pour le fret et pour le TGV.
Marie de la Place souhaitait réagir à tout ce qui venait de se dire.
Oui, je souhaitais réagir par rapport au transport aérien sur Bordeaux-Toulouse, et plus particulièrement donc sur Paris-Toulouse. Sur Paris-Toulouse, vous avez un cadencement qui permet finalement d'avoir un avion toutes les demi-heures pour aller à Paris. Alors je ne défends pas bien sûr le transport aérien, mais le TGV Bordeaux-Toulouse qui permettra donc de faire Paris-Toulouse ne pourra jamais permettre un tel cadencement. Donc, et d'autre part, la question du tarif reste posée. À quel prix sera le billet qui permettra de faire Paris-Toulouse en TGV ? La concurrence, elle se pose là aussi en termes de prix. C'est extrêmement difficile de concurrencer l'aérien avec avec un TGV dont l'investissement, évidemment, pour construire la ligne, en tout cas Bordeaux-Toulouse, sera très important.
Alors, promis, Michel Leboeuf, je vous donne la parole dans un instant, mais je voudrais qu'on retrouve d'abord Anaïs, qui est à Montpellier et qui patiente depuis un petit moment. Bonsoir, Anaïs.
Bonsoir.
Dites-nous tout,
alors,
Anaïs.
Alors, moi, j'habite à Montpellier, mais je crois que j'ai eu ma réponse un petit peu. C'est que à Montpellier, il y a une gare en centre-ville qui s'appelle la gare Saint-Roch, qui est très bien desservie et dans laquelle passent les TGV. Et on a construit une autre gare qui s'appelle Montpellier Sud de France, qui est très, très mal desservie, qui est très excentrée et dans laquelle arrivent que les TGV, pas tous. Et qui, en fait, on gagne 5 minutes de trajet à peu près. Par exemple, entre Valence et Montpellier, c'est 5 minutes. Donc,
mais après, il faut venir de la gare.
Après, il faut c'est aller ça, le à souci. La gare. Et du coup, on perd bien 30 minutes. Donc voilà. Et cette gare a coûté vraiment, vraiment très, très cher. Et je me demandais à quoi elle servait, mais j'ai un peu ma réponse, vu que c'est pas une ligne à grande vitesse, elle sert à pas grand chose, en fait.
Merci beaucoup pour cette question, Anaïs. Michel Leboeuf a très envie de vous répondre.
Oui,
cette gare là au milieu, au milieu de nulle part.
Oui, non, mais je vais défendre cette gare parce que je pense qu'il faut la regarder, si vous voulez, dans le long terme. Et dans le long terme, c'est quand on aura la ligne Montpellier-Perpignan, évidemment, elle aura une autre utilité que celle qu'elle a aujourd'hui. Voilà. Je voulais aussi répondre sur Toulouse. Sur Paris-Marseille, aujourd'hui, on fait 3 heures et le TGV a une part de marché de 80%. Sur Paris-Toulouse, on sera entre 3 heures et 3 heures et demie. Il n'y a pas de raison, si vous voulez, que sur Paris-Toulouse, on soit moins bon que sur Paris-Marseille. Donc, on ne fera pas 80% parce que ce sera un petit peu plus long, mais on sera à 70%. Et on saura faire les tarifs qui permettent ce report.
On a une révolte des Auvergnats, me dit-on, sur franceinter.fr. Plein de mails de gens qui nous disent ben, Clermont-Ferrand, ça fait 40 ans qu'on attend le TGV. Et là, franchement, Michel Deboeuf, on toujours rien à l'horizon.
Il n'y a pas rien.
Et pourtant, il y a eu des élus qui se sont battus.
Il n'y a pas rien à l'horizon, puisque j'étais, quand j'étais à la SNCF, promoteur d'un projet qui s'appelle Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Projet qui, pour le moment, est dans les cartons. Évidemment, c'est un projet qui est très coûteux, mais il y a bien eu des études. Le problème, c'est que la ligne entre Clermont et Lyon est très très difficile du point de vue relief. Et donc, l'amélioration de cette ligne coûte très cher pour des gains de temps qui sont très faibles. Et donc, effectivement, il y a bien un projet de ligne nouvelle, mais il faudra le financer.
Yves Crozet, un mot sur ce que vous venez d'entendre ?
Oui, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut séparer le bon grain et l'ivraie dans ce qu'a annoncé aujourd'hui Monsieur Macron, puisqu'il a rassemblé différents projets ferroviaires dans son discours, ce qui est tout à fait logique. Mais le seul projet qui soit vraiment un projet de LGV, c'est Bordeaux-Toulouse. Michel Leboeuf vient de dire ce qu'il en était pour Montpellier-Perpignan. Il ne s'agit pas du tout, par exemple, de faire Marseille-Nice. Il s'agit de réaliser une gare traversante à Marseille, ce qui avait déjà été annoncé il y a maintenant 7 ans par Manuel Valls. Il s'agit aussi, en Normandie, d'améliorer la gare de Rouen. Il s'agit d'améliorer les choses à Nice. On n'est plus du tout dans des projets de LGV. Donc, comprenons bien que le réseau de lignes à grande vitesse est pratiquement aujourd'hui à maturité en France. Quand on aura été à Toulouse et qu'on aura été à Perpignan, il n'y aura sans doute pas de nouvelles vraies LGV. Et donc, par exemple, malheureusement pour les Auvergnats ou pour mes amis rouennais, il n'y aura pas de ligne qui fera Paris-Clermont-Ferrand avant sans doute plusieurs dizaines d'années. C'est des choses qui peuvent arriver parce que tout simplement, le système TGV, s'il veut continuer, comme l'a dit Michel Leboeuf, à dégager des marges qui alimentent l'ensemble du système ferroviaire, on ne peut pas l'alourdir régulièrement avec des lignes qui seront de plus en plus déficitaires.
Antonia est en ligne. Bonsoir Antonia.
Bonsoir.
Vous souhaitiez nous parler des gares ?
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis une très grande utilisatrice de la SNCF puisque je fais pratiquement 45 000 km par an sur les lignes TGV, TER, parce que je suis comédienne et je joue beaucoup en région. Et en tant qu'utilisatrice fréquente, forcément, je transite beaucoup par les gares. Et déjà, je voudrais revenir sur un cliché qui est de dire que les trains sont en retard à la SNCF. C'est absolument faux. Les trains sont très ponctuels et c'est pas du tout ce que je leur reprocherais. En revanche, les gares deviennent des centres commerciaux et je regrette beaucoup que les usagers qui autrefois étaient assez privilégiés, notamment les gens comme moi qui sont grands voyageurs, n'ont plus de service à la personne dans les gares, notamment avant les salons grands voyageurs pouvaient faire des échanges de billets, pouvaient nous aider sur des changements. Et il y avait les guichets Pro Express en gare qui permettaient à des grands voyageurs qui étaient souvent dans l'urgence et qui passaient leur temps dans les trains, de bénéficier de certains services un peu privilégiés au titre de leur fidélité. Et maintenant, les gares, notamment la gare Montparnasse aujourd'hui, est devenue un centre commercial avec un espèce de grand hangar dans lequel il y a quelques machines ordinateurs avec quelques agents totalement désespérés qui essaient d'aider les usagers qui sont ulcérés. Et moi, j'ai passé l'autre jour 1h30 à acheter 2 cartes de réduction pour mes enfants et des billets. C'était à s'arracher les cheveux. Et même les agents ne savaient pas nous aider. C'était catastrophique. J'étais effarée.
Merci beaucoup, Antonia, pour cette remarque. Et vous n'êtes pas la première, à la faire. Yves Crozet, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi? C'est une logique commerciale qui s'impose alors que dans le même temps, on réduit le nombre de cheminots?
Oui, ce qui se passe surtout, c'est que la plus grande partie des billets aujourd'hui sont achetés par Internet, en tout cas pour les TGV, pour les TER. Et pour les TER, il y a beaucoup d'abonnements. Donc mécaniquement, la SNCF, Michel Leboeuf en parlera mieux que moi, a limité le nombre de guichets. Et effectivement, dans les grandes gares, au moment où notamment au début de la rentrée scolaire, où vous avez des achats à faire, eh bien, vous avez des queues énormes qui se mettent en place. Je vois ça, moi, régulièrement, gare de Lyon, quand je vais prendre le TGV à Paris. Donc, effectivement, il y a un sous-dimensionnement du service dans certaines grandes gares à des moments particuliers.
Peut-être un mot sur ce sujet, Marie Delaplace, et puis ensuite je donne la parole à Michel Leboeuf. Oui,
je voudrais effectivement intervenir là-dessus. Il me semble qu'on assiste en quelque sorte à une privatisation des gares, hein. C'est ce qui est évoqué par l'auditrice en quelque sorte. On a des centres commerciaux à la japonaise. Aujourd'hui, les gares sont des centres commerciaux et ne sont plus des endroits vraiment avec des espaces publics. Quand on regarde d'ailleurs un certain nombre de gares, notamment des gares qui sont sur la ligne à grande vitesse, ces gares, elles sont fermées. Parce que les TGV ne circulent pas la nuit, donc les gares sont fermées. Et donc, on perd un petit peu cette notion d'espace public accessible à tous, avec un service aussi qui soit un service public, avec des personnels qui soient disponibles pour répondre aux demandes des usagers.
Michel Leboeuf, sur ces gares qui deviennent des centres commerciaux, c'est pas faux?
Non, c'est pas faux, mais je pense qu'il faut aussi regarder la réalité en face. Les programmes de modernisation ou de restauration des gares sont extrêmement coûteux et il faut bien trouver des sources de financement. Et par ailleurs, en ce qui concerne, je dirais, la distribution, ce qu'a dit Yves Crozet est assez vrai, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la distribution est essentiellement faite par Internet, il est vrai que la force de vente a été réduite et que donc, dans certains cas et à certaines périodes, il y a des pointes et c'est pas très pratique pour le voyageur, ça arrive, effectivement. On va pas nier l'expérience de cette voyageuse que je félicite de fréquenter si souvent le train.
De faire autant de kilomètres, c'est vrai que c'est impressionnant. J'aimerais qu'on aborde quand même la question de la concurrence qui va concerner aussi les lignes TGV. Bientôt, Yves Crozet, qu'est-ce que ça va changer? On sait que ça va changer, par exemple, très concrètement sur la ligne TER entre Marseille et Nice, ça va changer les choses très bientôt. Mais pour le TGV, qu'est-ce que ça va changer?
Oui, parce que faisons bien la distinction. Ce qui va sans doute voir le jour en 2025 entre Nice et Marseille, c'est ce qu'on appelle une concurrence pour le marché, c'est-à-dire que la région fait un appel d'offres et va sans doute changer l'opérateur de SNCF vers Transdev. Pour le TGV, c'est de la concurrence sur le marché, c'est-à-dire qu'un opérateur italien, Tello, va venir opérer des trains entre Paris et Lyon et va bien sûr faire une concurrence sur les prix, sur la qualité, sur les fréquences. Ça va être un peu plus difficile. Et la SNCF va riposter. D'ailleurs, son projet s'appelle s'appelle Riposte. Et donc ça, ça va accentuer l'évolution du modèle économique du TGV, qui était un modèle autoporteur. Les voyageurs payaient, y compris, comme l'a dit Michel Leboeuf, 41% des recettes servaient à payer l'infrastructure. Or, de plus en plus, le Ponel et TGV n'est plus un modèle autoporteur. Pour faire tour Bordeaux, il a fallu mettre 3 à 4 milliards d'argent public. Sur toutes les lignes TGV lancées par Nicolas Sarkozy en 2011, il y avait 15 milliards d'investissements, dont il a fallu mettre 8 milliards d'argent public. Et si on fait Bordeaux-Toulouse, il faudra mettre aussi 70 à 80% d'argent public. Donc petit à petit, le TGV est un modèle qui rentre dans une logique du ferroviaire subventionné, comme le sont les TER. Et la concurrence sur Lyon-Paris va pousser la SNCF à baisser ses tarifs sur Lyon-Paris, donc à réduire ses marges. Or, ce sont justement ces marges-là qui permettaient de financer par péréquation d'autres lignes TGV non rentables. Donc le modèle TGV va évoluer très fortement dans les années à venir. Il faudra...
Merci
éviter
beaucoup.
Paye pour cela.
Merci beaucoup Yves Crozet. Il nous reste une minute, pas plus, et même un petit peu moins. Alors en un mot, Michel Leboeuf, la priorité pour vous aujourd'hui ?
Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce qui a été dit sur la concurrence. Le cas de l'Italie démontre que, effectivement, les tarifs ont baissé, mais il y a aussi beaucoup plus de trains qui roulent, que l'offre a été améliorée et que, globalement, le système ferroviaire, on a tiré des bénéfices. Et il n'est pas moins financé maintenant qu'il ne l'était avant.
Merci beaucoup à vous et merci Marie de la Place. J'ai malheureusement pas le temps de vous redonner la parole, mais un très grand merci à vous, un très grand merci aussi à nos amis de Radio France à Lyon pour la liaison à distance avec Yves Crozet. Merci aussi à Maxime Deps qui était avec nous juste après les informations de 20h, l'heure philo. Bonsoir Patricia Martin.
Bonsoir Claire Servageon.
Quel est le programme ce soir ?
Le programme c'est le jeu, J-E. Dans lequel il y a un peu sujet. Du jeu aussi, quelquefois. Et nous en parlons avec Clotilde Le Guil, qui est à la fois philosophe et psychanalyste.
Passionnant. Merci beaucoup, Patricia. À tout à l'heure.